Merci Louis-Marie pour ton exposé très clair, très suggestif. Je me suis posé la question à un moment quand tu as dit chez nous, on est en crise, c'est différent de chez les Juifs. Je me suis posé la question si vraiment on est hors crise, comme tu le présentes. Je ne suis pas totalement convaincu, mais
D'accord. Mais tu sais, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin.
oui, c'est ça, c'est ça. J'ai retenu quand même un élément important d'ailleurs par lequel Louis-Marie a commencé. Bon, j'apprécie la probité, si, c'est-à-dire, voilà, nous sommes en situation d'échec de la transmission. Parce que c'est ça, si je dois résumer ton propos, pour moi, c'est l'échec et comment essayer de sortir de cet échec. Ouais, quels sont les éléments qu'il faut identifier pour pouvoir restaurer la transmission si indispensable pour pérenniser le sens de la tradition et de ce qu'on est, de l'identité. Mais oui, cet échec, il est ressenti également dans les communautés juives en France. Il y a beaucoup de communautés de province qui ont fermé, qui se meurent, qui sont fantomatiques. Il reste souvent que les murs et à côté des murs, il y a nos amis les Loubavitch, qui est un style, qui est un style, un nouveau, nouvelle manière de fonctionner comme juif et qui tente de récupérer les personnes qui sont en déshérence. Les Loubavitch, c'est un peu les veaux charismatiques les communautés évangélistes qui prennent le relais dans bien des endroits et qui donnent un nouveau visage au judaïsme, mais qui néanmoins témoignent d'un évidement, d'une crise. Oui, il y a beaucoup de synagogues qui sont vides, les synagogues consistoriales se portent mal, il y a une crise de vocation depuis longtemps, le séminaire rabbinique de la rue Vauquelin quasiment fermé, il n'y a pas d'étudiants. On pourrait aussi dresser un bilan inquiétant qui, en grande partie, est lié au même facteur que Louis-Marie a mentionné. C'est-à-dire, nous ne sommes pas isolés de la société en général, de son mode de fonctionnement, des grandes évolutions sociales et technologiques aussi qui se produisent, qui font que aujourd'hui, une grande part de la communication entre jeunes se fait à travers les réseaux sociaux, se fait de manière informelle. Ils ont une autre façon de penser le vivre ensemble. Ils nous trouvent tous, c'est-à-dire tous nous qui sommes dans des communautés d'un autre monde, de l'ancien monde. Ils ont aussi un langage qui est complètement différent. Ils sont plus dans l'audiovisuel, dans la rapidité de la communication et disons-le clairement aussi, dans la superficialité. Parce que il y a des choses très intéressantes qui se passent sur l'audiovisuel, mais soyons sérieux, il y a quand même une culture de la rapidité, du mot ou de la pause qui va faire le buzz. Voilà, c'est une culture du buzz. Et il faut, dans cette culture, on doit plaire. On doit plaire et gare à ceux qui déplaisent, qui, eux, subissent la rage et l'agressivité que l'on connaît sur les réseaux sociaux. C'est une autre société qui quelque part se barbarise. Hein. On retourne à quelque chose de très très barbare. Louis-Marie mentionnait avec justesse que c'est pas seulement l'absence de culture religieuse, c'est l'absence de culture tout court. On voit le niveau des étudiants. Et donc, on ne peut pas généraliser. Il y a bien sûr des exceptions, il y a des gens exceptionnels, mais quand on regarde globalement, moi, je suis assez convaincu, comme bien d'autres, qu'il y a une baisse très nette du niveau culturel. Il y a une crise de lecture, les gens ne lisent plus. Et quand il y a des articles en ligne, on vous dit en combien de minutes vous pouvez lire votre article. Si c'est comme ça, ça peut dissuader d'avance ceux qui n'ont pas envie, entre guillemets, de se prendre la tête. Donc, il faut prendre acte qu'effectivement, nous basculons dans un autre type de culture qui est très problématique au regard des valeurs que l'on veut transmettre, qui nécessitent justement du temps, qui nécessitent de la patience, qui nécessitent de l'exercice, qui nécessitent de la concentration, qui nécessitent des réunions, des tas de choses qui aujourd'hui ne sont pas dans l'air du temps. Donc effectivement, les synagogues sont vides, la moyenne d'âge dans les conférences, dans les offices en général, dans la vie juive, en tout cas en France, oui, montre que la nouvelle génération est globalement absente. Voilà. Pour réagir encore à ce que dit Louis-Marie, ben après je vous dirai, bien sûr, l'angle particulier que je saisis pour le judaïsme, est-ce qu'on peut en dire? Mais Louis-Marie a parlé d'un affaissement du rôle de la famille qui ne prenait pas suffisamment le relais, qui prenait plus le relais. Je veux dire que de ce point de vue-là, le judaïsme se porte quand même un tout petit peu mieux peut-être que les chrétiens, parce qu'une grande partie du rituel, et même le rituel qui touche le plus le cœur des juifs, se passe à la maison, dans la famille, et pas à la synagogue. Je peux vous garantir que dans quelques jours, au Seder de Pessah, il y aura énormément de juifs. À mon avis, la grande majorité sera autour de la table pour fêter le Seder de Pessah. Ils vont vibrer, bien sûr, ce sera plus ou moins religieux et plus ou moins sérieux selon les familles, mais il y aura ce rendez-vous. Il y a toujours une place encore non négligeable pour un certain nombre de rites comme la circoncision, comme la bar mitzvah et des choses qui ponctuent la vie d'un juif. Mais néanmoins, bon, il y a, je crois, quand même une perte de niveau, une perte de connaissance. Et ce que je trouve intéressant aussi dans le propos de Louis-Marie, c'est que j'ai envie de dire que si on revient à 50 ans en arrière, on est passé de l'Église triomphante à l'Église humble, peut-être juchée sur un âne, si on veut l'espérer, mais en tout cas, j'entends dans le discours de Louis-Marie que vous vous êtes enjuivé, pas simplement parce que vous êtes dans des relations véritablement fraternelles avec nous aujourd'hui, mais parce que vous êtes finalement aujourd'hui dans une condition de minorité qui est aux abois et qui doit faire face à un environnement qui est tout à fait différent, voire hostile. Bon, ben, bienvenue au club de ce qu'a été le judaïsme à travers les siècles. C'est comme ça que souvent ça a été vécu et ressenti. Et du coup, nous partageons quelque chose d'un point de vue existentiel aujourd'hui dans la réflexion sur comment donner sens à notre tradition. Là où je vais émettre un point, non pas vraiment de désaccord, parce que je suis convaincu que Louis-Marie sera d'accord avec moi, mais un point qu'il n'a pas à soulever et que j'aimerais évoquer. C'est que pour moi, la présentation que Louis-Marie a faite, elle est extrêmement juste, mais néanmoins partielle. Et je voudrais dire pourquoi. Car si sur un plan local, indéniablement, les religions sont pour une majorité de fidèles en crise, en Occident, dans nos pays, dans plein d'autres pays, dans d'autres situations, le sens religieux est en augmentation. En Amérique latine, il y a énormément d'engouement, en Afrique, énormément d'engouement pour la religion chrétienne. Je dis même que la religion chrétienne aujourd'hui est celle qui, selon ce que j'ai pu lire, selon l'une et l'autre étude, est la plus en progrès dans le monde. On a peine à le croire quand on vit en Occident, en France, mais dans ces grands continents américains et africains, il y a un engouement. Alors peut-être pas pour le catholicisme, mais pour le protestantisme et ses formes évangéliques. Donc je pense que il y a dans le monde des phénomènes, d'ailleurs, qui sont très préoccupants, d'ailleurs aussi, ce que je veux souligner, c'est que le type de religiosité qui aujourd'hui a le vent en poupe, c'est une religiosité populaire et populiste parfois. Une religion qui est dans le phénomène, le phénomène de la sensation. On veut vivre des émotions fortes et cette émotivité prend le dessus sur tout le reste. Je serais le dernier à dire que l'émotion est sans importance, elle est capitale. Je n'oublierai jamais l'office, la messe que j'ai vécue un dimanche matin à Yaoundé, au Cameroun, où j'ai été invité par des protestants. Nous, on avait fait notre Shabbat. On était une petite délégation. C'était une délégation, une rencontre judéo-chrétienne à l'université de Yaoundé. On était une petite délégation d'une quinzaine de juifs, pour la plupart qui savaient à peine prier. Donc, quand ils sont venus à notre Shabbat, ils ont été bien gentils, nos amis chrétiens. Mais je crois qu'ils ont eu plutôt pitié de nous. Et puis, quand on est allé le lendemain à l'église pour voir ce qui se passait, il y avait 3 000 personnes dans cette immense église. Et quand on a dit qu'un de nos membres venait de Jérusalem, au seul mot de Jérusalem, c'était le feu. Non pas le feu, l'incendie, mais le feu dans les cœurs. 3 000 personnes se sont levées, ont dansé avec une fougue. Et je veux dire, c'était inouï pour moi de voir à quel point la foi était vibrante dans cet endroit. Donc, si on a une vision globale, si on regarde aujourd'hui le monde de manière globale, en fait, l'image que je m'en fais, moi, c'est que on a d'une part une lame de fond, une vague qui part du siècle des Lumières, qui part même de la réforme protestante en Occident, et qui a érodé les structures classiques de la religion en Occident, qui a introduit petit à petit des formes d'athéisme et de rejet de la religiosité et un phénomène de sécularisation. Et ce phénomène, il est toujours en route. Il a même gagné en vitesse, en somme, et en extension, en raison du phénomène global qu'on a décrit de la perte de sens culturel et du fait qu'on est passé dans une société d'un autre type. Donc cette lame de fond, elle est toujours très très grande et on en souffre aujourd'hui avec ce qu'on a décrit. Mais il y a aussi et déjà en même temps un reflux qui se produit, qui est encore chez nous, dans notre partie du monde, peu perceptible parce que ce phénomène est dissimulé par la lame de fond principale qui continue à faire son effet. Mais je suis convaincu personnellement, ici et là, on en voit des signes, qu'il y a un retour du religieux, il y a un regain d'intérêt, tout simplement parce qu'il y a un essoufflement de la société sécularisée. Il y a des gens qui ne trouvent plus aucun idéal, ne trouvent plus aucune raison de donner aucun sens à leur vie. La société de consommation, ce n'est pas tout. Et puis, on voit aussi que l'islam, lui, continue à donner énormément de vigueur à ses fidèles. Et moi, je suis convaincu qu'à un moment en France, les chrétiens ne vont plus supporter d'être en reste, ne vont plus supporter que le monde occidental va connaître l'essor d'une autre religion qui va devenir la religion principale et eux rester sur la touche. Je n'y crois pas. Je crois en un sursaut. Je crois que le monde chrétien et que le monde en général, quand il est en situation de crise, revient aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est l'identité nationale et religieuse. On ne peut pas abandonner longtemps une religion, pour une raison très simple. C'est que la religion, c'est l'ADN de la civilisation. La religion, avec ses écritures, avec ses traditions, porte la mémoire fondamentale qui a fondé la civilisation. Alors on peut basculer dans une civilisation complètement barbare, mais on n'abandonne pas si facilement l'ADN. On peut errer pendant un certain temps, et puis à un moment, on se dit, il faut pouvoir s'expliquer donner sens à ce qu'on est. Et je crois que l'on assiste déjà à des phénomènes de retour du religieux. André Malraux disait déjà en 1975 que le 21e siècle serait religieux ou ne serait pas. Moi, je pense que la vraie préoccupation aujourd'hui, c'est est-ce que le 21e siècle sera humaniste ou fondamentaliste? Est-ce qu'il sera populiste ou il sera culturel? Ça, c'est la vraie équation qui va pour moi se produire. Je suis intimement convaincu qu'on ne va pas rester éternellement dans le vide. Mais ce qui va revenir à la place, en retour de balancier, je ne sais pas si ça m'inquiète plus ou si ça me rassure en quelque façon de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vu le type de langage et de radicalité que l'on voit dans les discours aujourd'hui par cette culture superficielle de l'audiovisuel, et quand je vois ceux qui sont les ténors de la religion sur Instagram ou autre chose, ou sur YouTube, je suis extrêmement inquiet de la future religiosité de nos pays, et non pas du total évidement. Encore une fois, je ne minimise pas du tout ce que Louis-Marie dit, parce que nous sommes au cœur maintenant de ce reflux, de ce flux plutôt, de cette lame de fond. Donc, on est en souffrance, mais je suis, en complétant, autant inquiet dans le reflux que dans la lame de fond. Voilà, c'est-à-dire que ce qui va continuer, à mon avis, à nous accompagner, c'est ce phénomène de culture superficielle. Et là, nous avons un enjeu de transmission évidemment capital, parce que nous pouvons nous arc-bouter et tenir à tout prix à nos modes anciens de communication. Et j'en fais partie. J'en fais partie parce que je pense qu'ils sont irremplaçables. Je pense que rien ne remplacera jamais un bon livre. Et que rien ne remplacera jamais une bonne prière, plutôt que d'assister à des mises en scène de gourous par écran interposé. Et néanmoins, si nous n'entrons pas dans le mode de communication moderne de manière significative, en accompagnant la culture aussi dans ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une culture audiovisuelle, une culture d'écran, eh bien, nous ratons le rendez-vous de l'histoire. Il faut également accompagner ce mouvement. Dans ce genre de situation, il faut à la fois maintenir ce qui est éminemment précieux et s'ouvrir à un mode de fonctionnement qui n'est pas nécessairement celui de notre génération, mais qui est celle de l'avenir. Pour vous donner un bref exemple, mais sans du tout prétendre nous prendre en exemple, mais il a fallu 10 ans ou 12 ans à ma communauté, on avait déjà fait ce diagnostic il y a très longtemps, mais 10 ou 12 ans pour qu'on commence timidement seulement depuis 1 an ou 2 ans à mettre en place des programmes Instagram, des émissions YouTube, et aujourd'hui, très modestement, à notre échelle évidemment, on fait ce tournant-là, alors que spontanément, c'est pas notre mode de communication. le plus évident. Mais il faut pouvoir le faire. Transmettre aussi aujourd'hui dans le monde moderne, c'est changer de méthode didactique. Il faut opérer une sorte de Vatican III, pardon, mais à Vatican II, les prêtres, au lieu de tourner le dos à la communauté, commencent à regarder les fidèles, ce que je trouve une très bonne chose. Nous, on fait ça à Dar es Salaam. Eh bien, il faut réfléchir aussi à quel est le moyen moderne aujourd'hui de rendre la religion intéressante et vivante. Et une chose dont on doit, à mon avis, à tout prix se départir pour transmettre et pour communiquer, c'est qu'il faut cesser de penser que la transmettre, c'est les anciens qui transmettent aux plus jeunes. Ça, c'est le modèle classique. Et il doit rester, hein, entre parenthèses. Il ne faut pas l'éliminer. Mais on ne peut plus s'en contenter. Aujourd'hui, la nouvelle donne de communication, c'est que les gens sont dans la créativité. Il faut leur donner la parole. Il faut les inviter eux-mêmes à produire et à créer. Et les accompagner dans cette création. Dire aux jeunes de nous dire ce qu'est la religion. Leur demander. Et à partir du moment où on va leur demander de nous dire ce qu'est la religion, eh ben, spontanément, d'abord, ils vont réfléchir par eux-mêmes, ils vont dire des choses nouvelles, mais ils vont aussi revenir vers les anciens. C'est eux qui vont demander aux anciens. On approche de Pessah et on a le prophète Malachi qui annonce la venue de Élie le prophète. Et Élie le prophète, il ramène le cœur des anciens aux jeunes et le cœur des jeunes aux anciens. C'est bidirectionnel. Regardez ça, là, Malachi 3, c'est bidirectionnel. Si on continue à penser que nous devons transmettre aux jeunes, on se trompe. On se trompe. On ne sait pas faire. On ne sait plus faire. Ça ne se passe plus comme ça. Il faut leur demander à eux de faire et nous de les aider à faire. Et peut-être leur demander de nous instruire parce qu'il y a des choses que nous ne voyons pas. Des choses que nous ne pouvons pas voir. Parce que nous sommes dans nos certitudes, nous sommes enfermés dans notre système. Je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à la créativité et à la participation. Vous savez, encore une fois, c'est pas du tout pour prendre en modèle ou nous prendre en modèle, mais dans notre communauté, par exemple, les offices sont autant que possible participatifs. Il y a plein de gens aujourd'hui dans ma communauté qui lisent dans la Torah. Ils apprennent un morceau, l'autre un autre morceau. Alors, ce n'est pas toujours aussi professionnel que celui qui est attitré, qui, quand il y a une mouche qui passe, il regarde la mouche et continue à lire en lisant par cœur le texte, avec exactement la mélodie, telle qu'elle doit, elle doit être dite, tellement il est professionnel. Mais il y en a d'autres qui viennent, et parfois des jeunes, des adolescents, des femmes, et ça crée une effervescence, ça crée une stimulation, les gens se préparent, et ils ont un tout autre rapport au texte quand ils ont lu dans la Torah. Leur famille vient voir comment ils ont lu dans la Torah, ils recréent un lien avec la communauté. Ils font aussi les drachot, les enseignements. Alors évidemment, comme ce n'est pas des professionnels, parfois ça ne vole pas très haut, parfois c'est confus, ce n'est pas toujours bien. Mais la personne s'est préparée, elle a étudié, elle a ouvert des livres qu'elle n'aurait jamais ouverts. Elle vient ensuite poser des questions. J'ai parfois plus de travail parce qu'ils m'envoient à l'avance leur discours, il faut que je les corrige pour que, autant que possible pour que ce soit présentable avant qu'il soit présent dans la synagogue. En tout cas, bon, je donne des exemples. Je ne dis pas qu'il faut laisser tout aux fidèles, parce que, encore une fois, ce serait une démission et on perdrait la direction qui doit néanmoins se maintenir, à savoir la transmission qui doit passer de ceux qui sont les sachants et ceux qui sont instruits à ceux qui le sont moins. Il faut le maintenir, évidemment, mais il faut donner la parole, donner la possibilité aux jeunes de prendre leur place. Et ils prendront leur place que si on leur donne des responsabilités. Et non seulement ça, mais je dirais encore autre chose, c'est que ce qui marche le mieux pour l'enseignement des jeunes, c'est les jeunes par les jeunes. quand un ancien enseigne ses vieux jeux. Alors, si un jeune est suffisamment ouvert et suffisamment fin, il est capable de tirer plein de choses des anciens et heureusement que ça existe encore. Mais quand un jeune parle à un jeune, il a le langage. Il a les mots, il a la posture. Et le jeune peut beaucoup plus s'identifier au jeune, évidemment, qu'à l'ancien. Il faut comprendre que le modèle classique n'est plus le même. Si on ne prend pas acte de cela, on reste prisonnier d'un logiciel qui nous enferme et qui nous conduit à l'extinction. La vraie préoccupation pour moi, je l'ai dit, c'est comment être capable de rivaliser avec les populistes démagogues qui sévissent sur la toile et qui ont des discours aguichants. Moi, je vais être très franc avec vous. Il m'arrive de surfer et de voir des vidéos de jeunes rabbins et des barbus, parfois entourés d'un certain décor. Et je suis effrayé d'entendre ce qu'ils racontent, avec un ton de monsieur, je sais tout, de monsieur, je suis inspiré directement de Dieu et je vous dis ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Enfin, une tonalité, mais qui, aujourd'hui, comme hier, touche un certain nombre de gens, touche des foules, touche des gens désœuvrés ou des gens qui sont trop incultes et qui se laissent impressionner par les apparences et par les discours pleins d'assurance que peuvent livrer certains et plein de légitimité aussi. Et ça, en tant que catholique, vous devez le savoir aujourd'hui, c'est que les gens qui vont apparaître plus catholiques que le pape vont souvent faire grande impression parce que ils auront plus l'habit tel que le fantasme se le représente, du vrai chrétien qui a maintenu la vraie tradition. Souvent, ce sont les discours les plus rigides qui font le plus impression. Quand on est. Louis-Marie parlait de la vertu du dialogue et à quel point c'est indispensable pour transmettre. Évidemment, c'est indispensable pour transmettre quelque chose d'authentique. Indispensable pour transmettre quelque chose de consistant et d'honnête. Mais pour beaucoup de gens, au premier degré, quand ils sont en recherche d'identité, ils recherchent le pur et le dur, comme on recherche un diamant. Et pour nous, et pour eux, nous sommes frelatés. Nous sommes dégommés, dégradés, parce que nous ne sommes plus la religion chimiquement pure. Qu'il se fantasme, évidemment. Ça, c'est le phénomène qui est dur de transmission auquel on doit être confronté. C'est comment conjurer cette religiosité populiste qui, à mon avis, à mon triste avis, va aller en se renforçant. Comment tenir des discours convaincants, mais qui sont des discours nuancés? C'est toujours la nuance et la rhétorique, ça ne va pas toujours ensemble. Je vais vous faire raconter une anecdote, mais il y a de ça de nombreuses années, j'étais invité à une conférence sur le statut de la femme devant des étudiants juifs des grandes écoles. Donc, a priori, un public intellectuellement avancé et ouvert. Alors, moi, j'ai pris la parole et je leur ai expliqué l'histoire de la bénédiction qu'on récite le matin, Loué sois-tu éternel qui ne m'a pas fait femme. Une bénédiction très problématique. Alors, je leur ai expliqué que néanmoins, dans la tradition juive, il y avait une autre manière de concevoir le statut de la femme, qui avait eu des évolutions significatives, qu'il y a eu aussi des rabbins qui ont, à l'ère moderne, protesté contre cette bénédiction, qui ont pris leur distance par rapport à cette bénédiction. Alors, ils m'ont écouté très gentiment. Et puis, le conférencier qui a parlé après moi, il a fait une diatribe en me disant que c'était honteux que je présente de manière aussi méprisante la tradition juive et que je ne tenais pas suffisamment compte de l'immense sagesse de nos rabbins, car en réalité, cette bénédiction, loué sois-tu éternel qui m'a pas fait femme, c'est la plus belle bénédiction qui ait jamais été dite en l'honneur des femmes. C'est parce qu'elles sont sur un piédestal tellement haut que les hommes ne sont pas à la hauteur et qui disent loué sois-tu. Voilà. Enfin, une espèce de pirouette, mais complètement délirante, mais qui a produit une standing ovation. Tout simplement pour une raison à moi, que j'ai analysée, à part peut-être que j'étais moins bon orateur, mais mis à part ça, il y avait pour moi une raison très simple. C'est qu'il a dit ce que le public voulait entendre. Il
Oui.
voulait entendre que l'on magnifie le judaïsme, que l'on caresse leur identité et qu'on leur dise qu'ils sont les plus beaux et les meilleurs. S'ils entendent ça leur plaît, c'est ça qu'ils veulent entendre. Après, les arguments, ils n'y comprennent pas grand-chose, pour, contre. Peut-être que ce n'est pas vrai ce qu'ils disent, c'est peut-être vrai ce qu'ils. Il n'avait peut-être même pas les critères pour savoir qui avait raison là-dedans. Mais quand quelqu'un était du côté de la défense inconditionnelle du judaïsme et l'autre qui avait une position critique, et ben moi je ne faisais pas le point à côté de lui. Et ça, c'est à mon avis, ça va être l'enjeu de transmission pour notre génération, si on veut transmettre quelque chose d'authentique. C'est comment réussir à convaincre que la probité et l'honnêteté, c'est la voie qu'il faut suivre et pas celle qui cherche à camoufler et à finalement faire mentir les sources pour plaire davantage. Donc là aussi, je pense qu'il y a un enjeu capital. Ma conviction, c'est que vraiment pour la transmission de l'avenir, c'est fondamentalisme face à humanisme. C'est religion qui défend des valeurs face à une religion qui défend de l'identité écrasante. Et je suis convaincu que ça traverse toutes les religions. Je crois aussi que c'est le grand enjeu de l'islam. Malheureusement, du côté de l'islam, il y a aujourd'hui, enfin, du moins à ma connaissance, je connais trop peu de gens qui sont dans le discours que j'appelle le discours de probité. Mais ça existe. Il y a, notamment chez des universitaires musulmans, des personnes qui peuvent présenter leur religion sous un jour qui est humain et qui ne cherche pas à tout prix à flatter le ego, qui intègre la dimension critique. Alors, je crois que ce que nous devons faire, ce que nous sommes appelés à faire dans le dialogue interreligieux dans les années à venir, ce sera justement d'entrer en dialogue avec ceux qui ont un discours authentique et essayer de réfléchir avec eux comment convaincre que la religion, c'est du sérieux et que on n'a pas le droit de tricher et d'user de démagogie. Voilà, ça va être, à mon avis, quelque chose de capital. Et peut-être encore pour donner un dernier point d'illustration, et puis on va peut-être ouvrir aux questions, mais pour faire tout ce travail, il y a un travail de déminage qui doit être fait, un travail de déconstruction. Je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup de juifs qui vont vous dire que le judaïsme est fondé sur une espèce de devise qui est quasiment un slogan, qui est Naaseh v'nishma. nous ferons et nous comprendrons. Le judaïsme est une religion des actes, une religion existentielle. On fait et quand on accomplit, on comprend ensuite ce qu'on a fait. Je n'ai pas le temps de vous le démontrer ce soir parce qu'il faudrait faire un, deux, trois ou quatre cours pour bien présenter la chose. Mais cette façon de présenter la formule Naaseh V'Nishma est complètement tronquée au regard de ce que dit le livre de l'Exode et raconte dans quelles circonstances cette formule a été prononcée par les enfants d'Israël au pied du mont Sinaï, mais également tronquée par rapport à ce qu'en disent les commentateurs les plus classiques, tronquée par rapport à ce qu'est le judaïsme lui-même, en aucune façon. La compréhension et l'intelligence n'est inféodée à l'action. Au contraire, il y a une constante interaction entre l'action et la compréhension. Et évidemment que la compréhension des commandements a un impact énorme sur la manière de faire, dans un sens ou dans l'autre. Les débats rabbiniques sur l'action à mener tiennent justement à des différences de conceptuel ou de conception ou de vision théologique et philosophique du judaïsme. Donc, cette manière de présenter le judaïsme comme une religion comportementaliste, behavioriste, où il faut en réalité rentrer dans les rangs et obéir et comprendre uniquement ce à quoi on obéit, c'est le fruit d'une idéologie qui est une idéologie autoritaire, une idéologie qui, encore une fois, fait de l'endoctrinement et non pas de l'éducation. C'est une fausse transmission. Il faut faire extrêmement attention que de donner place à cette idéologie qui met en cause tout sens critique. C'est la fabrique des fanatiques. C'est extrêmement dangereux. Encore un deuxième exemple que j'évoquerai beaucoup trop rapidement, mais vous avez tous entendu, là j'ai l'impression que je parle comme le sermon sur la montagne. Vous avez tous entendu qu'on dit que le judaïsme, c'est la religion des 613 commandements. Eh bien moi, je vous dis que dire que la religion juive, c'est la religion des 613 commandements, est extrêmement dangereux. Que c'est faux et que c'est dangereux. Alors, pardon, mais je vais le dire trop vite, hein, parce qu'il faudrait du temps pour expliquer tout cela. Mais dans la Torah, on n'a jamais fait le compte des commandements. Il n'y a pas numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ce chiffre 613, il apparaît très tardivement dans l'histoire du judaïsme. Pas avant la période des Amoraïm, c'est-à-dire pas avant le 3e, 4e siècle de notre ère. On évoque qu'il y a 613 commandements. Avant cela, on ne parle pas de ce chiffre. Et même à l'époque des Amoraïm, il ne joue aucun rôle. Il faut attendre la période des Géonim au 8e, 9e siècle pour que des rabbins essaient d'identifier quels sont les 613 commandements. Et il faut un Maïmonide au 12e siècle pour qu'ils prennent chacun de ces commandements, en donnent une définition très très rigoureuse et déclarent que c'est la vérité éternelle du judaïsme. Et en ayant fait cela, il a réifié ces commandements en faisant le programme immortel et perpétuel du judaïsme. Et ça, c'est très inquiétant. Parce que dans ces 613 commandements qui, évidemment, se basent sur un texte d'il y a 3000 ans, il y a les règles de l'esclavage, il y a le patriarcat, il y a les punitions corporelles, il y a les exécutions publiques et leurs variantes, le culte des sacrifices et plein d'autres choses comme ça. Si je réifie ces 613 commandements et je dis que c'est ça le judaïsme et que c'est ça à quoi il faut aspirer le jour où il nous sera donné les moyens de le refaire, et bien ça donne les ultra-nationalistes, les ultra-intégristes que l'on connaît dans la société aujourd'hui en Israël. Alors, ça ne veut pas dire que ce chiffre est sans intérêt, il a une signification. Ça ne veut pas dire que l'œuvre de Maïmonide est à jeter à la poubelle, loin s'en faut, c'est un géant du judaïsme. Il faut simplement la situer dans son contexte. Il faut comprendre ce que le judaïsme a fait de ses commandements et ce qu'il est advenu au cours de l'histoire. Mais je veux dire, ce que j'essaie de vous expliquer, pour résumer et pour terminer, c'est que le vrai enjeu de transmission, ça va être de transmettre des contenus qui soient des contenus qui sont fondés sur des choses authentiques et qui n'enferment pas le système dans une espèce de vérité écrasante et dominatrice, qui est ce fondamentalisme qui nous guette. Donc c'est pas seulement le vide qui est aujourd'hui face à nous, c'est aussi son contraire qui se profile, à mon avis, à l'horizon, et face à quoi il faut être prêt pour transmettre une religion avec la fibre qui est, je pense, celle que nous défendons ici, une fibre tendue vers l'homme, tendue vers Dieu, dans le dialogue et dans le respect. Voilà, merci de votre attention.